se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va débattre autour de ses meilleurs moments RMC, toujours avec Martin Bourdin, Daniel Riolo, Laure Clausier et Julien Damon. Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules. Faut-il s'indigner qu'Emmanuel Macron se soit pris des tomates dans la figure hier? Eh bien oui, pour Fred Hermel, qui condamne la violence envers nos élus. Les respecter, nos élus, c'est ça, la France.
C'était hier à Cergy, dans la région parisienne. Emmanuel Macron prenait un bain de foule quand soudain, un membre de son service de sécurité criait « projectile ». Aussitôt, le protocole de protection du chef de l'État s'est mis en marche. Bon, finalement, rien de bien méchant, parce qu'il s'agissait de... Les projectiles en question étaient des tomates. On disait même des tomates cerises.
Ça va.
Oui, ça peut faire marrer. Ça peut faire sourire. Mais... Quand même, quand on se rend compte de ce que c'est quand même de la violence physique à l'encontre du président de la République, élu démocratiquement dimanche dernier par la majorité des électeurs français. Donc, quand on s'attaque à lui, c'est quand même à la volonté du peuple français qu'on s'attaque. Ne pas montrer de violence envers les élus. Respecter les élus, quels qu'ils soient. Et respecter surtout leurs fonctions. Eh bien, voyez-vous, c'est ça la France.
Bon, que ce soit des tomates cerises, des tomates cœur de pigeon, des tomates cœur de bœuf, Julien Damon, est-ce que c'est honteux qu'on ait pu jeter les tomates sur le président de la République?
Oui, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est minable, c'est lâche. Enfin, on pourrait faire une longue liste comme ça de qualificatifs pour dire que c'est absolument scandaleux, c'est irrespectueux. Je ne vais pas reprendre la liste. Et je trouve que ce qui serait essentiel, c'est de trouver qui a fait ça et de le foutre en tôle. Voilà.
Pardon?
Oui, je trouve ça scandaleux.
Pour un jet de tomate cerise, vous présentez quoi?
Et celui qui lui avait mis une gifle?
Bah, c'est pas du tout pareil.
Ah, bon, c'est pas la même chose.
Il l'a même pas atteint, là.
Bah oui, s'il l'a raté, en plus.
Je préfère prendre une tomate cerise sur la tronche que de prendre une gifle.
Je suppose que c'est même une petite giflette. Non, mais de toutes les manières, on est là.
C'est pas la saison des tomates, elle ne peut pas être mieux.
Le truc est assez surréaliste comme discussion. En gros, récapitulons. Le président de la République se fait agresser. On est d'accord. C'est agressé. On va dire, oh, bah, c'est pas grave, c'est qu'une tomate.
Voilà, je ne fais pas agresser. C'est un jet de tomate. C'est une agression.
C'est une agression.
Qualifie comme une agression. Et d'ailleurs, je pense qu'en effet, ça pourrait jusqu'à de la prison pour celui qui a fait cette affaire.
Absolument.
C'est gênant.
Absolument.
Aujourd'hui, on trouve ça presque normal et presque amusant.
Et bien sûr, on banalise la violence en permanence dans notre société.
Et ça, c'est vrai pour le président de la République. Alors donc, on s'en y intéresse. Mais quand on est un maire, un élu local dans un petit village, ben alors là, c'est les beignes, les graffitis, les tags, les insultes, etc. etc. Non, c'est quelque chose de très grave ce qui se passe en général, ici incarné au plus haut.
Sévérité totale contre toute forme de violence sur les élus.
Mais la prison à ce monsieur qui a jeté les tomates.
Mais la prison, déjà, on n'en est pas là. On évalue la gravité des faits, on juge, et effectivement, on arrête avec le laxisme par rapport à toutes les formes de violence qu'on a dans notre société sur les policiers, les élus, mais même entre individus. Il y a beaucoup trop de violence dans notre société. On en a parlé également à travers ce qui s'est passé dans les stades depuis le début de la saison. Évidemment que c'est un acte de violence. Tu prends un objet, je m'en fous. Je m'en fous que ce soit, une tomate. Je m'en fous que ce soit un caillou. Tu prends, donc il y a l'acte, le passage à l'acte. Tu prends l'objet et tu le jettes vers une personne. Donc ça veut dire que le mec qui fait ça, il a envie de le blesser.
Mais vous exagérez.
Ah, il n'a pas envie de le blesser.
Mais non, mais il a pu jeter des tomates comme ça. Alors, vous voyez ce que je veux dire?
D'après ce que j'ai pu lire, c'est d'un commerçant du marché qui aurait lancé ses tomates. À cause de la cohue, en fait, son état a été bousculé à cause de la cohue. Et de la cohue, et il visait plus, visiblement, les journalistes et le public qu'Emmanuel Macron. D'après ce que j'ai pu lire, d'après
des journalistes, il n'a pas acheté. Quand bien même, en aucun cas, il balance sur des gens des objets.
Tout serait tolérable maintenant, moi je trouve.
Mais on tolère tout. Il n'y a plus de sévérité, il n'y a plus d'autorité dans notre société. Il n'y a que de l'indulgence envers toutes les formes de violence, les petites, les moyennes, les grandes. Je ne dis pas qu'il doit être condamné à 20 ans de prison, je ne dis pas ça. On évalue les faits, on évalue. Alors si après on a un correctif qui nous dit ah non, il ne voulait pas aller jeter sur le président, ok, il se sera défendu. Je dis pas qu'il n'a pas le droit à la défense, il aura le droit à un avocat. Néanmoins, derrière, il y a beaucoup trop de laxisme par rapport à toutes les formes de violence. Qu'on en finisse avec la violence dans notre société, qui est une des sociétés qui est un des pays occidentaux les plus violents en ce moment dans le monde, la France.
On n'est pas sur une violente agression, pardon.
Et vous relativisez tout.
Tu ne hiérarchises rien, toi. Nous, on relativise, tu ne hiérarchises rien, tout est grave. Tout est l'enfer, on est le pire pays du monde, enfin, j'ai au Brésil, quoi. On n'est n'est pas le pire pays du monde en matière de violence. Enfin, on
je parlais de sociétés occidentales. Je te dis que parmi les pays européens, Amérique du Nord, on est en Europe. Allez, on va dire en Europe, il n'y a pas d'acte de violence aussi fort qu'en France.
L'orthosie, ça vous choque, vous, ce jeu de tomates?
Et c'est démontré par plein d'études.
Mais ça me choque, ça me rend triste. Je trouve ça triste que les gens soient plus capables de parler, qu'ils en soient à jeter des choses.
Bon, bah,
mais je
ne
le mettrai pas en prison pour les 20 prochaines années en disant, tenez, c'est un exemple.
Personne n'a dit ça, alors.
Julien Damon a dit ça.
Il n'a pas dit pour 20 ans, arrêtez de transformer.
Un petit peu.
Mais c'est un délire.
Oui, bah oui, un petit séjour, oui.
S'attaquer au président de la République, c'est pas rien.
Mais
je préfère deux dictées. Ça, c'est hyper chiant, les dictées. Ça, c'est une belle punition, tu vois.
À faire. Là, on la minimise à dire, oh, c'est pas grave, une dictée. Non, c'est grave. On s'attaque au président de la République. On s'attaque au président de la République quand on jette quelque chose.
Bien sûr qu'on s'attaque à lui, arrêtez.
C'est quand même un truc assez.
Arrêtez avec votre indulgence, bon marché, là.
Bon marché, sur le marché.
Indulgence bon marché.
Oui, qualifie-la comme t'as envie. Rien n'est grave. On peut tout faire. Et puis après, ça, c'est l'automobiliste qui s'arrête à côté de l'autre et qui finit par terre parce qu'il lui a grillé le feu rouge. Et c'est pas grave. Rien n'est grave. Rien n'est jamais grave.
Si c'est grave, là, je suis d'accord, moi.
Oh là là.
Nouvel extrait dans ce zapping. Apolline Matin ce matin. Faut-il s'inquiéter pour notre sécurité numérique? Hier a eu lieu dans plusieurs endroits de France un sabotage de câbles Internet. Des actes clairement volontaires et bien préparés, comme nous l'a expliqué ce matin Nicolas Guillaume, il est opérateur d'une partie de ces câbles.
Ces câbles ont été sectionnés de façon très nette dans des chambres télécom qui sont posées au sol à différents endroits. Donc c'est vraiment un acte délibéré. Les auteurs des faits ont visiblement une action coordonnée. Des gens très bien informés qui peuvent savoir comment porter une atteinte à une infrastructure de télécommunication, qui savaient précisément à quel endroit atteindre les câbles de télécommunication avec l'impact que cela pouvait avoir.
Est-ce que ça montre, Laure Clausier, s'il était encore besoin, notre dépendance extrême à Internet? On a l'impression qu'on ne peut plus vivre sans Internet aujourd'hui, quoi.
Ah oui, j'avais pas vu la question comme ça, parce que moi j'allais dire, mais quelle bande de gros débiles d'avoir coupé des câbles.
Bah aussi, oui, bon, ça on est
pas. Mais c'est pas grave, Laure, il n'y a rien qui est grave. C'est pas grave.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais il n'y a rien qui est grave.
Laissez parler, Laure Clausier.
En prison.
Ça n'a rien à voir. Je dis juste que les gens qui coupent les câbles Internet, qui s'attaquent aussi aux grains de blé ou des trucs comme ça, avec des actions coup de poing complètement débiles, je suis attristée. Je dis pas qu'il faut les mettre en prison, je suis attristée par ce niveau-là. Je trouve ça affreux.
Mais en revanche, les tomates, t'es pas attristé?
Non.
On parlait aussi de la dépendance à Internet, parce qu'effectivement, il y a eu des pannes, il y a eu des ralentissements d'Internet. Est-ce qu'on est trop dépendant, finalement? On se rend même plus compte qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet et qu'on vivait très bien, quoi.
Ah oui, il y a 15 ans, on n'avait pas de smartphone. C'est vrai que notre monde a complètement changé. Il se trouve que dans l'affaire, si j'ai bien suivi, là, c'est quand même des actions coordonnées. Ça a été fait dans plusieurs villes. Donc, ce sont des gens qui font du cyberterrorisme. Soyons clairs, c'est pas simplement de la petite incivilité qui amènerait à leur dire, c'est bien, les amis, il faut pas commencer. Non, c'est grave. Ce sont des attaques. Je rappelle que si Internet ne fonctionne pas dans un hôpital, ça peut être très grave.
Oui, c'est grave.
Donc c'est grave. C'est très grave. Voilà. En tôle.
Exactement, en tôle.
Et si ça se trouve, ces gens-là ne savaient même pas que, je veux dire, on utilisait Internet à l'hôpital et que ça pouvait avoir ce genre de répercussions.
Ah, c'est sûr, parfois, quand on fait des bêtises, on est très crédible.
La loi protège pas forcément toujours les imbéciles. Donc tôle.
Ils doivent même jeter des tomates sur le président de la République.
C'est des grands tôles, il faut.
Oui, bah, alors, le construit, ça fera du travail.
Il y a un nouvel extrait qui devrait te plaire, Daniel. Extrait des grandes gueules ce matin. Un policier a été mis en examen hier pour homicide volontaire. Ça fait suite à la mort de deux hommes dimanche soir à Paris. Ils refusaient d'obtempérer et ont foncé en voiture sur les policiers qui leur ont ensuite tiré dessus. Une mise en examen qui met en colère Arnaud, auditeur RMC, qui témoignait tout à l'heure dans les GG.
Je suis dépité. Je suis dépité parce que moi j'ai mon oncle qui est CRS qui me raconte du coup tout ce qu'il a pu voir et toutes ses journées, etc., où il se fait caillasser, ils se sont jetés des machines à laver dessus et ils se sont crachés dessus et il a été blessé plusieurs fois de points de suture à la tête, jambes cassées, bras cassés, etc., où les personnes qui ont commis ces actes ont jamais été inquiétés. Et là encore une fois, on a un policier qui fait son boulot, parce que on peut pas, malgré tout, il fait son travail, hein, ils sont garés à contresens, ils sont refus d'obtempérer, et il est mis en examen. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on met pas en examen le troisième qui était dans la voiture pour justement refus d'obtempérer? Pourquoi c'est pas ça qui ressort? Alors... plutôt que la police qui encore, oulala, les vilains policiers qui ont tiré. On protège, encore une fois, on protège les délinquants et on met en examen ceux qui sont là pour nous protéger. Ah ouais.
Daniel, est-ce que c'est une affaire qui peut fracturer la France? Parce que on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent bah c'est pas normal qu'il soit mis en examen, il se protégeait, et d'autres qui disent bah c'est bien normal, violence policière, etc.
Ça fait bien longtemps que la France est fracturée sur le sujet, mais une fracture quand même qui est à 70 ou 80% de gens qui soutiennent la police, il faut quand même le dire, hein, parce que tous ceux qui parlent des violences policières, c'est une infime minorité. Si la mise en examen est faite juste pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé et qu'on pose des questions, pourquoi pas ? Derrière, restons vigilants, à partir du moment où une personne, en plus d'après ce qu'on sait un peu de l'affaire, il y a probablement trafic de drogue derrière, refuse d'obtempérer et je fonce sur les policiers, je soutiens la police à 100% dans ce dossier, réellement. Qu'on veuille savoir ce qui s'est passé, c'est normal. Qu'on interroge le policier, c'est normal. Mais derrière, pour ce qu'on en sait, à moins que derrière il y ait des révélations, pour ce qu'on en sait, soutien à 100% à la police, comme je pense une très 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 large majorité des Français qui en ont marre qu'on remette sans arrêt en cause le pouvoir de la police dans un pays où l'autorité est mise à mal chaque jour.
Enfin, faut quand même savoir ce qui s'est passé.
Et je l'ai dit en ouverture de mon intervention.
Vous avez quand même d'abord,
on sait d'abord,
vous avez quand même deux gamins qui sont morts.
D'abord, on pose la question pour savoir ce qui s'est passé, mais visiblement, il y a refus d'obtempérer et je fonce sur la police. Derrière, on s'expose.
Julien Damon, sur ce sujet.
Oh, j'aurais pas beaucoup de points de divergence avec mon ami Daniel là-dessus. Je pense qu'il faut faire confiance à la police et il faut aussi faire confiance aux procédures qui sont celles de la justice en la manière. Et ce qui s'est passé, c'est que le policier même a été en garde à vue.
Hein. Oui, parce qu'il est logique.
Pas forcément.
Enfin, il a tué deux personnes quand même.
Non mais d'accord, mais on n'est pas forcément en garde à vue.
Il a pas tué, il s'est défendu.
On ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est défendu. Enfin, on ne sait pas. En l'occurrence,
il se soit défendu ou pas, il y a quand même eu deux morts.
On ne parle pas du sexe des anges, là. On parle d'une affaire qu'on ne connaît pas. Enfin, pardon, on fait comme le sexe des anges, on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé.
J'allais dire merde, on a connu.
On ne connaît pas exactement ce qui s'est passé sur le pont neuf. Et en l'espèce, il me semble qu'il y a des procédures qui sont lancées, qui sont lourdes, nécessairement lourdes. Et tout à l'heure, on entendait donc ce policier dont l'oncle est CRS et s'en prend plein la figure aussi. C'est pas la même chose, alors que je suis du côté des CRS, de la gendarmerie mobile, de gendarmes, etc., etc., parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Là, il y a mort d'homme, il y a une procédure lourde qui pèsera longtemps sur la carrière et la psyché de ces policiers. On verra ce que la justice dira.
Apolline Matin, ce matin, peut-on être heureux lorsqu'on travaille en horaire décalé? De plus en plus de Français travaillent la nuit ou le week-end, de manière volontaire ou de manière contrainte. C'était le cas de Catherine, elle a travaillé pendant 10 ans la nuit et elle expliquait ce matin qu'elle ne pourrait plus le faire aujourd'hui.
J'ai travaillé une dizaine d'années dans une discothèque.
Oui.
Donc j'embauchais à 23h et je finissais à 6h du matin.
Ouais, très mauvais, très mauvais souvenir.
À refaire, je ne pourrais pas le refaire. Et bon, bah, quand on a cherché du travail, hein, bah, on prend ce qu'on trouve. Mais bon, maintenant, je le paye. Donc je suis obèse, j'ai des problèmes de diabète, des problèmes de cœur. J'ai fait de l'apnée du sommeil, donc je suis appareillée à vie.
Et vous considérez que vraiment ça a une relation directe avec ces 10 ans qui vous ont usé,
quoi ? Ouais, parce que vraiment, j'étais pas du tout de la nuit, je luttais contre le sommeil, rien que pour aller embaucher. Bon, ça avait aussi des bons côtés, j'avais des bons collègues, ça allait, mais bon, la santé n'a pas suivi.
Alors, Laure Clausier, vous avez beaucoup travaillé en horaire décalé, en matinale pendant 5 ans, maintenant c'est le soir, est-ce que vous êtes heureuse ?
Oui, je suis heureuse, mais c'est dur. C'est dur physiquement, mais c'est dur aussi sur la vie de famille. Après, il y a des choses qu'on peut faire en horaire décalé qu'on pourrait pas faire dans une vie normale. Moi, je vois mes enfants le matin, je travaille pas le vendredi parce que je suis sur 4 jours. Quand j'étais en matinale, j'allais les chercher tous les jours à 16h30. Mais oui, sur le corps, c'est dur. Il y a pas de et encore horaire décalé pour faire un travail de bureau, pas pour faire un travail d'usine. Donc et déjà sur le corps, c'est dur. Donc c'est bien pour ça qu'on a des primes.
Oui,
et qu'on gagne mieux sa vie quand on travaille en horaire décalé. C'est parce que ça use.
Et malheureusement, il y a quand même des secteurs où il faut travailler en horaire décalé. Parce que s'il n'y avait pas d'horaire décalé dans les hôpitaux, ce serait quand même compliqué. Daniel aussi, finalement, si vous faites des horaires décalés, vous travaillez tard le soir.
On est quand même beaucoup, hein, je pense, en France, finalement, entre ceux qui bossent le week-end. Un tiers
des Français ont déjà travaillé en horaire décalé,
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, on n'y fait même plus attention. Et je vais surtout pas me plaindre, voilà, c'est comme ça. Je suis totalement habitué maintenant, effectivement, à ce décalage qui fait que je n'ai pas de soirée. Je sais pas ce que c'est que d'avoir une soirée
un
à
dîner,
la maison, ou ce genre de choses. Mais j'ai pas à me plaindre. Si je le fais, c'est que c'est bien et que je suis heureux comme ça. Mais je pense plutôt à ceux qui le font
de
en effectuant des activités professionnelles plus pénibles ou plus difficiles. Et peut-être qu'ils sont moins heureux que moi. Donc vraiment, je me sens même pas concerné par le sujet.
Voilà, mais parce qu'il y a des gens qui le font malheureusement de manière contrainte et qui ne peuvent pas faire autrement. Dernier extrait dans ce zapping. Ça va être pour vous, Julien Damon. Ah. Apolline Matin, ce matin, qui des femmes ou des hommes disent « je t'aime » en premier ? Eh bien, il semblerait que ce soit les hommes, mais pour une raison bien
particulière. Ça, c'est des vraies enquêtes là-dessus.
Mais il y a des enquêtes.
C'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet, ça.
Vous prenez du temps. Daniel, ce sont les hommes qui disent « je t'aime » en premier. Et Charles Magnan nous explique pourquoi. Parce qu'ils ne disent pas « je t'aime » comme ça, en fait.
Mon Dieu.
Oh, malin. Je vais citer précisément le magazine Elle qui relaie cette étude. Malgré leur réputation de glaçons émotionnels, les hommes n'auraient en réalité aucun problème à dire je t'aime en premier à leur partenaire. Étude internationale. 1500 personnes interrogées en France, en Australie, au Brésil, en Colombie, au Chili. Et oui, la conclusion, c'est que les hommes disent souvent je t'aime en premier à leur partenaire, même si les chercheurs parlent d'un biais d'aveu masculin. En fait, ce premier je t'aime ne serait pas toujours désintéressé, puisque souvent il serait dans le but d'accélérer des rapports sexuels. Voilà ce que nous disent les chercheurs. Il y aurait un je t'aime un peu intéressé de la part des hommes. C'est la conclusion.
En fait, vous êtes des hypocrites. Voilà ce que vous êtes.
J'en étais sûre. J'étais sûre que c'était pas désintéressé.
Ah oui, oui. Bon, d'abord, Caroline, je t'aime. Mais c'est pas la première fois que je le fais. Hein. Voilà, ça va bien marcher, je suis content. Ça, j'ai marqué un point. Plus sérieusement, je trouve que cette étude à 1500 bons hommes et dames un peu partout dans le monde, en disant à quel moment tu dis je t'aime. Hein. C'est dans le monde entier. Après, on va dire les sous-échantillons, les Brésiliens sont peut-être plus, je sais pas, allants que les.
Mais vous dites je t'aime en premier ou pas, Julien?
Attends, j'essaie de me rappeler pour Caroline, là.
Mais
je n'y en a pas eu d'autres. D'abord, il n'y en a pas eu d'autres. Aucun autre. Rien. Bon,
ça c'est aussi. Vous dites je t'aime ou pas?
Moi, je suis plutôt de la partie des glaçons émotionnels. Moi, j'ai un petit peu de mal. Et après, ceci est un appel. C'est pas parce que vous dites je t'aime que je couche, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément parce que apparemment. C'est ça le sujet, quoi.
Ah oui, c'est vrai que les hommes disent plus souvent je couche.
Je trouve que ça aide.
Ah, tu trouves que ça aide?
Parce que je trouve ça émouvant.
C'est pas cher. C'est vraiment pas cher.
Je suis émue pour pas grand chose. Vous, Daniel? Je vous vois pas dire
je ne souhaite pas participer à ce débat.
Pourquoi c'est essentiel?
Tu voudrais que l'État légifère sur à quelle heure on doit dire.
Non, ce sont des choses privées. Je ne souhaite pas participer à ça.
Il faut mettre en taule tous ceux qui disent.
Je préfère vous écouter et rigoler.
Moi aussi, je suis rigolo.
Bon, allez.